Ok, merci. Voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie questions-réponses. Je ne sais pas si Goma est maintenant connecté avec nous. Si oui, vous lui passe la parole. Charles, est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous êtes connecté et est-ce que tout va bien? À vous. Bon, apparemment, Goma n'est toujours pas connecté avec nous. Nous allons donc passer à la partie questions-réponses. En commençant donc ici, cette fois-ci, je vais commencer par ma gauche. Une question, s'il n'y en a pas, je vois beaucoup de doigts. Ok, donnez à madame ici, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, votre voix porte, allez-y.
Mamie Tabangou de la RTNC, j'ai deux petites préoccupations à poser à monsieur Marc Samba. Monsieur Marc Samba, oui. Aujourd'hui, quel est le nombre de personnes vivant avec le VIH? C'est en RDC. Et puis, quel est le défi à relever pour que la riposte en République démocratique du Congo soit une réussite?
Ok, merci. La parole est à vous, monsieur le président.
Merci.
Oui, vous répondez. Okay.
Merci. Nous estimons le nombre de personnes vivant avec le VIH en RDC à environ 380 000 personnes. Alors, lorsque je disais, donner un peu, disons, les performances ou les... de la réponse, je disais que nous avons environ 120 000 personnes qui sont sous traitement et que cela représentait 32% des personnes qui sont censées, disons, bénéficier de ce traitement. Mais il y a une précision que je voudrais apporter. Et pour nous, à l'ONU-SIDA, et les nouvelles, disons, le protocole actuel dit que dès lors qu'une personne est, disons, dépistée séropositive, elle doit être mise sous traitement. Il n'y a plus de conditions. Dans le temps, on disait, bon, il fallait avoir, disons, mesurer les anticorps et voir un peu le niveau de, disons, d'immunité de la personne. Maintenant, on estime que tout de suite, toute personne, s'il y a des possibilités séropositives, doit être sous traitement. Parce que cela permet à cette personne de vivre plus longtemps. Ça permet même, disons, le virus même peut disparaître même pratiquement du sang. Donc, pour nous, les 32% est justement indexé par rapport, disons, au nombre de personnes estimées séropositives. Mais pour les 5 prochaines années, l'engagement qui a été pris par l'ensemble, disons, des États, y compris la RDC, c'est d'arriver à des couvertures de 90%. 90% de personnes séropositives puissent connaître, disons, leur statut. Ça, c'est important. Et ceux-là qui sont séropositives, les 90% puissent aller avoir accès au traitement. Donc, je rejoins un peu les défis, votre deuxième préoccupation par rapport aux défis. Le défi, justement, c'est de voir dans quelle mesure les structures de santé seront à même, justement, disons, de fournir ces services-là. D'abord, le dépistage. Parce que le dépistage, pour nous, c'est l'étape essentielle et cruciale. Il faut amener les gens vers le dépistage. Parce qu'une personne qui connaît, disons, de son statut sérologique, si elle est séropositive, va certainement bénéficier des traitements. Si elle est séronégative, elle va adopter des comportements à moins de risque. Donc c'est capital. Mais en même temps, nous estimons que pour que, justement, on puisse, disons, arriver à des couvertures de 90%, il faut impliquer la société civile. Il faut aller vers, disons, des approches innovantes, des stratégies innovantes. Pourquoi? C'est-à-dire promouvoir, par exemple, le dépistage à base communautaire. C'est possible. Il suffit de former, disons, les membres de la société civile, les ONG. Il suffit de les encadrer. Il suffit de mettre en place des mécanismes de contrôle de qualité. Parce que quand même, on travaille sur des hommes. On doit s'assurer que le service qui est fourni est de qualité, répond aux normes de l'ONU-SIDA et de l'OMS. Donc, mais, justement, ce défi-là, je pense que nous devons travailler, justement, comme je dirais, à décloisonner, disons, la réponse, quelles sont les communautés puissent vraiment jouer un rôle actif. Et moi, j'y crois fermement que c'est possible ici. Il y a des pays qui l'ont fait avec succès. Il n'y a pas de raison qu'en RDC, cela ne puisse pas se faire. Il y a aussi d'autres questions, disons, des contraintes, par exemple, liées aux contraintes financières. C'est important. Mais je dois dire qu'à ce niveau, la RDC a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, par an, si on regarde l'ensemble de la contribution, c'est autour de 60 millions de dollars, en tout cas des ressources domestiques, soit le personnel, les locaux, les équipements et même parfois de l'argent que justement le gouvernement donc apporte pour, disons, renforcer la société civile. Donc les contraintes également, c'est tout ce qui est l'aspect juridique. Je ne dis pas qu'il y a des lois discriminatoires ici, Mais l'environnement juridique, nous avons fait, disons, des études que nous appelons index de stigma. Et nous avons constaté que la stigmatisation et la discrimination, c'est une réalité. Il y a des personnes qui ont, disons, qui ont été exclues, par exemple, de l'école parce que tout simplement, soit ils sont séropositifs, ou c'est des parents qui sont malades. Donc, on a des données documentées, et ça, je le dis. Une des contraintes, justement, c'est de s'assurer que l'environnement juridique, que les gens peuvent aller, par exemple, vers un centre de dépistage sans avoir la crainte que s'ils sont, elles sont séropositives, elles vont être rejetées par la société. Ça, c'est important. Et c'est un des obstacles majeurs auxquels nous devons, justement, c'est pour cela que, bon, cette discussion nous doivent être, disons, normalement, disons, d'actualité pour voir dans quelle mesure. Ce n'est pas parce que le gouvernement prendra un texte que cela va se mettre en œuvre, mais c'est la contribution aussi de tout le monde, des organisations de la société civile. Nous devons nous parler par rapport à ça. Nous devons être tolérants, nous devons accepter les personnes qui vivent avec le VIH. Et je termine en disant aussi, il y a des groupes que nous appelons des groupes clés, qui en réalité sont le moteur de l'épidémie. Vous avez les professionnels du sexe. Quand je vous donne les prévalences, c'est extrêmement élevé. Vous avez des hommes qui font le sexe avec les hommes. Vous avez certaines populations passerelles. Alors, ces populations-là, par exemple, pour les hommes, sont l'objet d'une forte stigmatisation. Alors que ce sont ces populations, parfois, quand on dit les hommes qui font le sexe avec les hommes, c'est souvent des bisexuels. Ils ont des familles. Il y en a beaucoup, même d'ailleurs, la plupart, ils ont des femmes et des enfants. Mais ils ont une vie parallèle. Et ça, c'est des comportements vraiment... Enfin, en tout cas, c'est des groupes qui sont fortement exposés. Et les professionnels du sexe, on sait très bien que leurs clients... Bon, c'est des couples aussi, quelquefois. Donc, alors qu'à leur niveau, il y a beaucoup de choses. La prévalence est très élevée. Voilà un peu des éléments qui font que, bon, les rapports, disons, de ces groupes, disons, clés, que nous appelons clés, avec la population, avec les forces de l'ordre même parfois... les amènent à rentrer dans la clandestinité. Ils n'iront pas vers le dépistage. Ils ne vont pas se protéger, parfois. Donc, du coup, on est tous exposés. Je m'arrête là.
Voilà,
donc,
j'ai beaucoup de droits du côté droit. On va encore faire une petite discrimination positive. Donnez à la dame qui est au fond, là, s'il vous plaît.
Laetitia Massé, là, pour le compte de la RTNC2. Les éléments de FARDC ont, ces lundi, pulvérisé deux points de résistance de ADEF en Ituri. À ces jours, comment se présentent ces mouvements rebelles du nord-est de la République démocratique du Congo? Merci.
Bon, c'est une question normalement qui va aux spécialistes du colonel Amouzoud. Je voudrais plutôt me limiter à vous donner quelques éléments d'information que nous sommes en train, enfin que la MONUSCO est en train de mener. C'est-à-dire, en ce moment, et nous avons engagé conjointement, comme vous le savez, avec les FARDC, une lutte acharnée. Je vais dire ça, je pèse mes mots, une lutte acharnée contre ces groupes armés. Et en ce moment, les résultats sont palpables, mais il est nécessaire que nous fassions une évaluation sur le terrain d'une manière sûre pour pouvoir vous communiquer avec certitude ce qu'il en est en termes de chiffres. Si vous permettez, je me limiterai à cette réponse-là. Et probablement que à la rencontre prochaine, si vous revenez avec cette question-là, on aura beaucoup plus de précision en termes de chiffres, en termes d'impact de nos opérations sur le terrain. Question suivante, donnée, oui.
Merci Roger Marley Lukonga pour le journal Le Paris. Des perspectives radieuses émergent des propos du docteur Max Saba quant à l'optique de mettre fin au sida d'ici l'an 2030. C'est dans 14 ans, précisément. À ce jour, qu'en est-il de la fabrication de produits curatifs capables d'anéantir totalement le VIH? A-t-on déjà atteint la phase ultime de fabrication de vaccins? Vaccins qui jusqu'alors paraissaient chimériques.
Oui, merci beaucoup. Je dois dire que, oui, il y a des perspectives. Quand je parle de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Comme je l'ai dit, j'ai précisé, c'est en matière de santé publique, c'est arriver à contrôler la maladie, de faire en sorte que ça ne soit plus un problème de santé publique majeur. Cependant, en termes de vaccins, je crois qu'il y a eu des essais, mais les essais n'ont pas été concluants. Il y a eu des essais, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le traitement, si vous prenez correctement le traitement, non seulement vous pouvez mener une vie normale, comme tout le monde, et vous pouvez donc jouer de votre santé, bien sûr. On a réussi aujourd'hui à ramener les molécules. Au lieu qu'on, au début, il y avait beaucoup de médicaments à prendre à la fois. Maintenant, c'est une molécule qui intègre vraiment plusieurs éléments. Donc, ça fait que tout ça, on essaie, disons, de réduire, disons, les effets secondaires des médicaments. Mais l'autre élément, c'est que celui qui prend les médicaments correctement, non seulement peut vivre une vie normale, mais ne transmet plus la maladie. Ça veut dire qu'on coupe la chaîne de transmission. Et du coup, les nouvelles infections vont complètement être réduites ou complètement éliminées.
Merci. Oui, je reviendrai sur la gauche, mais on prend la question à droite, s'il vous plaît. Allez-y.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Ma question s'adresse directement à vous-même. Apparemment, les taux continuent à se resserrer autour de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. La semaine passée, plus précisément lundi, j'ai pris part à Goma à la conférence débat organisée par la CENI sur les élections à venir. Le vice-président de cette institution, M. Norbert Basengezi Kantitima, a dit que c'est difficile pour la CENI d'organiser les élections dans le délai constitutionnel parce que, selon lui, il faut procéder à la révision du fichier électoral qui doit prendre probablement 486 jours. Donc les nouveaux majeurs doivent aussi participer à ces élections parce que c'est leur droit le plus légitime et civique. Pour moi, ma question est de savoir, lorsque vous soutenez l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, serait-ce avec les nouveaux majeurs ou non? Merci.
Nous ne pouvons pas vous dire ici que c'est avec ou sans les nouveaux majeurs. Nous nous en tenons à la feuille de route que le Conseil de sécurité nous a dictée. C'est-à-dire soutenir techniquement et logistiquement les élections. Maintenant, quant à la décision d'inclure ou d'exclure les nouveaux majeurs, je ne pense que ce n'est pas dans notre rôle de décider si oui ou non il faut les inclure. Je pense que c'est plutôt à la classe politique qui devrait plutôt s'entendre et décider de ce qu'il faut faire. Et à partir de cet instant-là, en nous collant et en nous basant sur la résolution 2277, nous appuyons et nous allons apporter notre contribution pour l'organisation des élections. Mais il ne nous appartient pas de vous dire oui, il faut exclure, non, il ne faut pas les exclure. Je pense que ce n'est pas dans notre rôle. Nous partons à ma gauche ici pour une autre question. Oui, il y a un monsieur qui insiste là derrière ici, s'il vous plaît.
Bonjour, moi je suis le petit Bayende du journal Avenir. J'ai deux petites préoccupations à Monsieur Marc. Monsieur Marc, je voulais savoir en premier lieu quelle sera la contribution de la RDC à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le SIDA. Et deuxièmement, vous savez que la RDC est candidate parmi les pays candidats pour abriter la conférence internationale sur le SIDA et les infections transmissibles en Afrique en 2017. Comment se font les préparatifs? Est-ce que la RDC a la chance vraiment de gagner cette candidature devant des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Kenya, qui a beaucoup d'infrastructures?
Merci. La première question, c'est par rapport, disons, à la contribution de la RDC. Je crois que dans l'exposé introductif, j'ai mentionné qu'il y a eu une préparation, il y a eu des consultations au niveau national. Et au cours de ces consultations, non seulement la RDC a identifié, disons, les priorités au niveau national, mais également a formulé des recommandations assez claires pour soutenir, disons, l'accélération de la réponse en vue de la fin du VIH-SIDA en 2030. Et parmi ces recommandations, c'est la question de disponibiliser plus de ressources pour les pays, Bien sûr, les pays aussi doivent faire des efforts, mais il faut plus de solidarité au niveau mondial. Il y a également des recommandations visant, par exemple, à éliminer la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission de la mère à l'enfant. Il y a également des recommandations liées, disons, à la mise à disposition de médicaments, surtout les coûts. Bon, c'est vrai que les coûts sont subventionnés, mais on pense qu'au niveau africain, on peut envisager la production des médicaments. C'est tout à fait possible. Et, disons, réduire davantage les coûts de ces médicaments. Si nous situons dans une perspective, disons, d'avoir plus de personnes sous traitement, donc il faut agir sur ces coûts. Donc, il y a des recommandations qui ont été formulées par la EDC et, justement, les délégués de la RDC vont défendre ces recommandations et je suis convaincu que il y a aussi, disons, cela doit être inclus. Bon, nous pensons que cela pourrait être pris en compte, disons, dans la déclaration politique globale qui sera retenue. Il y a un élément important aussi, il y a les aspects liés aux violences sexuelles, les violences basées sur le genre, qui fait partie aussi des recommandations que la RDC a formulées. Justement, pour justement que cela puisse être pris en compte, disons, dans la déclaration finale. Et votre dernière question par rapport à la conférence internationale sur le sida en Afrique et bien sûr sur les maladies sexuellement transmissibles. Bon, la mission est arrivée depuis lundi matin. Donc, nous sommes en train de travailler avec, disons, les autorités. C'est une mission qui va évoluer, bien sûr. Elle vient de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le plan infrastructurel. D'abord, le centre qui va héberger cette conférence. Vous savez, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont attendues, des congressistes, des délégués à cette conférence. C'est énorme. Et donc, les aspects liés à, disons, infrastructures hôtelières, les transports. Et bien sûr, il y a aussi l'engagement politique aussi. Ça, c'est une composante importante. J'ai eu l'occasion, disons, de participer à plusieurs réunions et moi, je pense que, bon, la RDC peut espérer. Je ne peux pas être formel, être à 100% sûr, mais c'est un candidat sérieux. La RDC est un candidat très sérieux et nous espérons que, bon, au final, le 7 juin, nous aurons la réponse, les délibérations finales de la commission et nous espérons que, en tout cas, la RDC sera qualifiée et ce sera vraiment, disons, je dois dire, une grande joie de pouvoir, disons, organiser cette conférence qui va aussi valoriser le potentiel qui est au niveau de ce pays. La RDC est le précurseur dans la lutte contre le sida. En termes, il y a beaucoup de scientifiques ici. Ils ont été les premiers, les plus grands chercheurs, en tout cas, ont beaucoup travaillé ici, ont été les premiers. Et je pense qu'on doit reconnaître ces efforts et reconnaître aussi les progrès qui sont réalisés que je viens de rappeler dans mon introduction. Merci.
Ok. Nous, si vous permettez, nous allons prendre encore juste 5 minutes avant de terminer cette conférence de presse. On a le temps de prendre juste deux questions. Apparemment, Goma est connecté. Exa, Goma, vous êtes connecté? Non, Goma n'est pas connecté. Prenons deux questions ici et... Donnez le micro ici, s'il vous plaît. Oui, donnez là-bas et donnez à ce monsieur-là les deux questions et puis c'est terminé.
Merci. Théodore Ngandou au compte de Télé 7. Monsieur Théophane, de manière concrète, dites-nous, parce que la CAS accuse la MONUSCO d'avoir bloqué le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation, le processus électoral. Est-ce, ma question est de savoir si il revenait à la MONUSCO de rendre public ses rapports. Est-ce que c'était une mission donnée à la MONUSCO de rendre public ses rapports parce que la CAS vous accuse de bloquer ses rapports?
Oui, si vous avez suivi l'introduction, j'ai bien précisé que ce n'est pas le rôle. Le groupe des experts a été commis à une tâche. Ils ont effectué un travail. Et ce travail, ils doivent faire le compte rendu au secrétaire général. Et c'est à partir de ce moment-là que ce document-là peut être rendu public. Donc ce n'est pas, vous me donnez raison, ce n'est pas dans notre rôle de publier ou de donner des conclusions de ce rapport parce que il est destiné prioritairement au secrétaire général. Et c'est à lui, quand il aura vu et il aura décidé, il le rendra public. Vous avez raison, ce n'est pas à nous de le rendre public. La dernière question, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. Symphorien Katumba, journal explorateur. J'ai une préoccupation pour le compte de Madame Florence. Est-ce qu'en cas d'un décès au front par un agent humanitaire, il sera récompensé sur le plan matériel ou financier? Car le bénévolat risque de prendre l'ascendance sur la personne humaine qui reste au centre de toute existence. Je vous remercie.
J'adorerais pouvoir répondre à votre question, mais il faudrait déjà que je la comprenne. Est-ce que vous pouvez me la reformuler directement? J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une tribune de votre part, n'est-ce pas?
Moi, je disais en le mot, en cas d'un décès d'un agent humanitaire au front, est-ce que on les récompense sur le plan matériel ou financier? Car le bénévolat risque, ma foi, de prendre l'ascendance sur la personne humaine qui reste au-dessus de toute chose. Exactement, c'est ça.
Je crois qu'il n'y a pas vraiment... Bon, déjà, c'est l'occasion de saluer le travail de tous les humanitaires sur le terrain qui aujourd'hui exercent leur travail dans des conditions souvent difficiles. Et en ce qui concerne les décès sur le lieu de travail, je pense que c'est dans l'exercice des fonctions, il y a une législation autour de tout ça, il y a des règles, qu'on soit humanitaire ou qu'on ne le soit pas, dans la mesure où on a un accident de travail et qui entraîne ensuite un décès, ça donne normalement, selon les conventions des entreprises qui emploient les uns et les autres, ça donne lieu effectivement à des compensations, mais ça dépend de la législation à la fois dans le pays et de la législation de l'organisation.
Alors merci, cela met fin à la conférence de presse. Merci pour votre patience, merci à monsieur le représentant et à la semaine prochaine. Merci.